Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Laetitia, auteure du blog Ma grossesse, ma naissance. Je suis doula et j'accompagne les futurs parents à poser leur choix en confiance avant et après l'accouchement. Avec ce podcast aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la placentophagie, c'est-à-dire le fait de manger le placenta humain. Alors, il existe plusieurs rituels autour du placenta. On peut l'enterrer et le planter sous un arbre qui sera considéré comme l'arbre de l'enfant. Ou bien on peut en faire des empreintes sur papier. Le dessin obtenu représentera symboliquement l'arbre de vie du nourrisson. Et une autre pratique qui se retrouve chez les mères, on va dire humaines, est celle de manger son propre placenta, parce que voilà, les animaux, donc les autres animaux mammifères, le mangent. Donc pourquoi pas nous ? J'ai donc le plaisir d'interviewer Marie Baleine, qui est sage-femme et qui propose un service de transformation du placenta via le processus d'encapsulation de celui-ci. Donc Marie va nous parler plus en détail de ce processus et des bienfaits pour les femmes qui viennent d'accoucher. Bonjour à toi Marie.
Bonjour, bonjour Laetitia.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et avant de commencer avec toutes mes petites questions, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et comment t'es venue l'idée ou l'envie d'encapsuler les placentas?
Donc, je suis Marie Baleine, comme tu l'as dit, je suis sage-femme et maman de 4 enfants. Comment ça m'est venu l'idée? Je suis partie vivre au Canada pendant 3 années où j'ai accouché de mon premier enfant là-bas. Et c'est en étant donc là-bas, j'étais doula. Comme toi.
D'accord.
Et j'ai accompagné une femme pour son accouchement et elle m'a demandé d'encapsuler son placenta. Et là, j'étais assez surprise en me demandant, mais c'est quoi? Pourquoi? Et voilà, et donc ça a éveillé ma curiosité. Et donc, lors de la grossesse de mon deuxième accouchement, j'ai voulu tenter l'expérience. Et donc, en tentant, moi, j'étais convaincue. Je me suis dit, waouh, c'est génial de récupérer autant d'énergie après. J'ai aussi un effet positif sur mon allaitement. Et puis, moi, surtout, l'élément principal pour moi, c'était ce regain d'énergie. C'est de se remettre beaucoup plus rapidement, en fait, de son accouchement et de son état de grossesse. Donc, je me suis dit, let's go. C'est pour moi, je suis convaincue, j'ai envie de l'offrir à d'autres femmes. Et donc, j'ai commencé au Canada à offrir ce service.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc, tu l'as découvert là-bas, tu as commencé là-bas. Et du coup, est-ce que tu utilises un matériel spécifique pour faire cette encapsulation?
Alors oui, ça, c'était le gros pas à franchir. Donc, évidemment, pour moi, le premier test, j'ai utilisé ce que j'avais dans ma cuisine. Parce qu'on peut faire ça soi-même si on le souhaite. Mais pour le proposer de manière professionnelle, il y a tout un investissement dans le matériel parce qu'il faut du matériel qui puisse être stérilisé. Et puis il faut aussi un environnement qui soit adapté à la transformation. Et alors moi j'ai investi dans les formations ils disaient d'utiliser du Javel, mais bon moi ça me suffisait pas la Javel, il me fallait quelque chose, un désinfectant de plus haut niveau. Et donc j'achète du désinfectant pour le matériel chirurgical.
D'accord.
On utilise en fait dans les centres de stérilisation à l'hôpital, donc c'est exactement le même matériel qui est utilisé. Et puis je repasse encore une fois après dans un stérilisateur à chaud.
D'accord, ok, ouais, donc il y a une double.
Il y a une double stérilisation parce que j'ai pas envie, c'est ma sécurité, c'est pas nécessaire, mais c'est une sécurité pour moi. Voilà.
D'accord, ok. Et donc juste petite question, tu as suivi une formation ou alors pour avoir toutes les étapes, la marche à suivre.
C'est de la transmission d'une doula qui pratiquait l'encapsulation là-bas depuis des années et qui m'a appris, quoi. Il a été mon mentor,
Super. Une question que j'avais, c'était, est-ce que tout le placenta est transformé pour l'encapsulation?
Non. Tout le placenta n'est pas transformé, donc on retire les membranes, donc c'est ce qui constitue la poche amniotique, et on retire aussi le cordon. Donc ça, c'est deux éléments qui peuvent d'ailleurs servir à d'autres choses. On peut les récupérer pour faire d'autres choses avec.
D'accord. Et en fait, donc aussi comment ça se passe, ce projet-là doit quand même être mis en place et élaboré avant d'accoucher. forcément. Donc les parents, ou en tout cas la maman, enfin la femme doit dire, ben voilà, je veux récupérer mon placenta. Et comment ça se passe? Est-ce que, enfin, après, ça dépend peut-être des hôpitaux, mais est-ce que la marche à suivre est la même si elle accouche en maison de naissance qu'à l'hôpital? Ou alors, il y a quand même un protocole ou quelque chose qu'on doit demander quand même à l'avance?
Alors, dans l'expérience que j'ai, comme tu le dis, hein, ça dépend un petit peu des hôpitaux. En Belgique, l'avantage qu'on a, je dirais, c'est qu'il y a un flou juridique, donc il n'y a pas de loi qui détermine l'appartenance de ce placenta. Mais donc, ça veut dire qu'un hôpital pourrait très bien refuser. Donc, normalement, les placentas sont incinérés à l'hôpital. Mais la marche à suivre, elle reste la même, qu'on soit à la maison, en maison de naissance ou à l'hôpital. Il faut prévenir son soignant qui accompagne qu'on a ce souhait de transformer son placenta, parce qu'à la naissance, il va falloir le récupérer, le placenta. Donc oui, c'est un projet qui se prépare un petit peu à l'avance. Ça doit pas être des semaines et des semaines avant, juste la semaine avant. Mais moi, personnellement, je demande de remplir un formulaire qui explique ce qui va être fait au placenta et qui me donne l'accord de la transformation. Et je demande aussi actuellement une sérologie pour connaître l'état au niveau de l'HIV, de l'hépatite B et C et de la syphilis de la maman. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut me donner en amont et donc qu'il faut préparer.
D'accord. Parce que du coup, est-ce que tous les placentas peuvent être transformés?
Alors non, enfin, oui et non, 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 il y a certains cas où on ne peut pas. Donc il y a des cas où, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des accouchements pathologiques où en fait on va aller analyser le placenta pour savoir ce qui s'est passé. Et donc là, le placenta va passer en laboratoire. Normalement, le laboratoire, il n'a besoin qu'un tout petit morceau pour analyser. Donc, si vraiment c'est un projet qui tient à cœur, il faut bien dire, bah, envoyer qu'un petit morceau du placenta au labo et on récupère le reste et on voit ensemble si le placenta peut être transformé ou pas. Alors, s'il y a eu le GBS, donc le streptocoque B, qui est une bactérie que des femmes ont sur leur flore vaginale, donc 20 à 30% des femmes ont, c'est pas du tout pathogène pour elles, mais ça peut poser problème pour le bébé à la naissance et donc le placenta aussi peut être contaminé par cette bactérie. Donc là, il faut veiller à ce que la femme ait eu l'antibiothérapie adéquate. Et si ce n'est pas le cas, c'est quand même possible, mais c'est une information extrêmement importante à communiquer parce que le placenta ne va pas être transformé de la même manière.
Oui, d'accord.
Donc voilà, donc ça, c'est des informations qui sont intéressantes. Donc par exemple, si le liquide amniotique est teinté avec du méconium, donc les selles du bébé, c'est aussi possible. On va par contre passer énormément de temps à rincer le placenta. Qu'il ne reste pas de résidus. Et moi, de nouveau, je vais transformer différemment le placenta pour être certaine qu'il ne reste pas des bactéries présentes sur le placenta.
D'accord. OK.
Donc, voilà.
OK, merci. Mais du coup, aussi, quand on vient d'accoucher, en combien de temps, toi, tu as besoin de recevoir le placenta? Et comment on fait pour le conserver? Est-ce qu'on le laisse dans un sac? Est-ce qu'on doit le mettre dans le frigo pendant combien de jours?
Alors, juste après la naissance, on a 4 à 6 heures pour mettre ce placenta au frigo. Oui. C'est un organe qui est vivant. Hein. C'est un organe, c'est pas de la chair. Ça veut dire que c'est un tissu qui se dégrade moins rapidement aussi. On a un petit peu plus de flexibilité, je dirais, qu'un morceau de steak, pour dire vulgairement. Mais donc, 4 à 6 heures, il faut que ce placenta soit au frigo. Un frigo à 4 degrés de préférence. Et à partir de ce moment, donc à partir de la naissance, on a maximum 48 à 72 heures pour transformer. Donc moi, je préfère travailler des placentas frais. En termes de qualité, je trouve que quand je transforme le placenta, je le trouve de meilleure qualité quand il est frais. Donc, ma logique me dit qu'on va récupérer aussi plus de nutriments quand il est frais que quand il a été congelé. Mais si pour une raison X, ou qu'on n'est pas sûr, ou qu'on ne l'avait pas prévu, l'accouchement arrive plus tôt, ou on n'y avait même pas pensé, congeler le placenta est une bonne alternative et on a 6 mois pour le transformer. Ça reste quand même une option valable.
Ouais, ouf, heureusement. Du coup, voilà. Pour celle-là qui ça tient à cœur de faire ce projet-là, il y a quand même le temps.
Tout à fait. Pour le contenant, parce que tu me poses aussi la question du contenant, tu vois les sachets Ziploc de congélation, en fait.
Oui, oui.
Ça peut être quelque chose d'assez facile parce que ça prend de la place. On en prend deux, comme ça on met le plat dans un sachet, puis on remet ce sachet dans un deuxième. Il ne faut pas oublier c'est très liquide. Mais bon, c'est en contact avec du plastique. Donc, si on est sensible à ça, alors moi, je conseille de mettre dans un plat en verre. Au moins,
D'accord,
ben
ah
là,
oui, ok.
il n'y a pas de transfert de plastique avec cet organe. Voilà. Voilà. Donc, ça, il faut le prévoir à l'avance parce qu'à l'hôpital, les seaux qu'ils ont pour conserver le placenta, c'est en plastique aussi.
Ok, donc il vaut mieux venir avec son matériel finalement. Et prévenir à l'avance, voilà, je veux le récupérer, c'est mon bol ou c'est mon sachet. Et
Oui.
voilà, la personne qui accompagne, ou en tout cas la sage-femme qui est au courant du projet, peut alors s'en charger et faire en sorte que voilà, ça, le
Tout
relais est fait à ce niveau-là, quoi. Parce que bon, forcément, une fois qu'on vient d'accoucher, on est un petit peu autre chose. Ok, donc oui, donc pas oublier que c'est quelque chose qui se
Ouais.
discute et qui se prépare à l'avance. Parce que bon, sinon les médecins ou les personnes sur place risquent d'être surprises de cette demande. Et ce serait bête de passer à côté, en fait. Et c'est mieux de le savoir avant qu'ils sont pas OK avec ça, quoi. Parce que bon, ça
Ouais.
peut. C'est pas quelque chose non plus d'hyper connu. Donc.
à fait. Ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Oui, ça se discute avant et pas à ce moment-là. À ce moment-là, on est dans la rencontre avec son bébé et on n'est pas disponible pour ça.
Non, ça c'est clair. Et mais du coup, par rapport aux bienfaits pour la femme qui va ingérer son placenta, parce que finalement, c'est vrai, quand on voit les animaux, ils le mangent d'office, le placenta. Dès que les petits sont nés, hop, 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 on laisse pas de traces, on le mange, et bon, forcément, ils le font pas pour rien. Bon, après, c'est pour les prédateurs et pour éviter toute trace, mais pour nous. Parce que voilà, moi personnellement, je l'ai fait, et via toi, donc tu l'as encapsulé. Et c'est vrai que pour les bienfaits, bah, j'ai effectivement, enfin, je me suis sentie moins fatiguée. Parce que voilà, je l'ai fait pour mon deuxième bébé, donc j'ai pu aussi comparer entre premier accouchement et deuxième accouchement. Et donc oui, j'ai eu en tout cas. Après, il n'y a pas d'études, je pense, ou pas encore, pas trop là-dessus. Mais en.
Elles sont pas valables. Enfin, elles sont pas
Ouais.
assez. C'est pas des études sur un large échantillon et donc où il y a des biais dans les études. Donc non, il n'y a pas encore.
C'est bien, voilà, c'est dommage parce qu'il n'y a pas encore le certificat, on va dire, scientifique qui prouve que. Mais en tout cas, moi, pour mon expérience personnelle et mes sensations, je me suis sentie, voilà, beaucoup moins fatiguée. Et puis même pour tester l'expérience, c'était de découvrir autre chose, c'était sympa en fait. Et puis après, pour l'aspect que ça, c'est des gélules comme un complément alimentaire en fait.
Oui, tout
Ça,
à
donc il n'y a
fait.
rien entre guillemets de dégoûtant. Parce que c'est ça qu'on
Non.
peut avoir peut-être l'idée qu'on va manger un gros steak rouge. Non, c'est pas ça du tout. Enfin, je mettrai des photos dans
Ouais.
l'article que je rédigerai. Mais c'est voilà, ça s'ingère comme un
Ça
complément
s'ingère, oui.
alimentaire.
Ça se présente comme un complément alimentaire et ça n'a pas de goût non plus. Et quand on digère, ça n'a pas de goût. Donc, enfin, voilà, on a vraiment cette impression de prendre une vitamine, je dirais, qui vient de soi, enfin, qu'on a créée pendant 9 mois. Donc, c'est quand même assez formidable et ça a plein de propriétés assez intéressantes quand même s'il n'y a pas d'études qui sont assez valables, sur lesquels on peut s'appuyer. On voit quand même que les femmes, la plupart, moi en tout cas, hein, le retour que j'ai, c'est ce regain d'énergie comme tu viens de le témoigner. Puis ben, il y a le lait. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est vraiment dire, ah, ben, dès que j'avais un petit coup de mou au niveau de ma lactation, ben, hop, je reprenais des gélules, c'était reparti. Ou alors pendant ces fameux pics de croissance aussi, ça aide bien à suivre le rythme. Puis il y a la récupération où après l'accouchement, moi parfois je dois freiner certaines de mes patientes en disant écoute là, stop, tu en
Stop,
fais un peu
ouais.
trop, laisse le temps à ton corps de guérir parce qu'elles ont cette énergie de vouloir faire quand elles prennent ces gélules. Donc voilà, il y a aussi moins de baby blues et de dépression du postpartum, mais ça je reste prudente parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. On ne sait pas prévoir non plus comment elle aurait pu être sans ces gélules. Voilà, est-ce qu'il y a un effet placebo, pas placebo, je ne sais pas. En tout cas, quand c'est bien pratiqué, bien transformé, il n'y a pas de risque.
pas de contre-indication. Donc voilà, pourquoi pas ne pas essayer finalement.
Tout à fait. Et donc voilà, je dirais juste un petit attention à ne pas prendre ces gélules de placenta trop rapidement après la naissance. Parce que d'un point de vue physiologique, ce qui se passe, c'est que le corps de la femme, quand il accouche, il donne naissance au placenta, ce qui occasionne une chute hormonale et qui fait que 2-3 jours plus tard, on a notre montée de lait. Et donc il faut bien que le corps comprenne qu'il y a la chute hormonale pour mettre en route cette lactation.
D'accord, ouais, ok.
Donc moi, j'invite vraiment à ne pas mettre les gélules en place avant le 4-5e jour après la naissance, en tout cas quand la congestion a eu lieu, quand elle est passée.
D'accord, ouais. Et oui, combien de gélules y a-t-il? Combien, enfin ça dépend peut-être, hein, mais et combien du coup on doit en prendre par jour?
Ok, deux questions. Ça dépend la taille du placenta.
D'accord, ah
Donc,
ouais, mmh.
En fonction de si on a un grand ou un petit placenta, ben, on va produire un nombre de gélules. Donc, ça varie. Le plus petit que j'ai eu, je crois que c'était 90. Et puis, j'en ai déjà eu un, il a fait 200 gélules.
D'accord, ok, waouh.
Vraiment impressionnant. Donc, ça varie très fort. Et je me suis même dit, je vais peut-être créer une petite carte expliquant comment était le placenta. Enfin, bon, moi, je suis passionnée par ça. Je ne sais pas si les parents sont preneurs, mais. Donc, ça varie très fort, en gros, du placenta. Et puis, ta deuxième question, j'ai oublié.
Combien il faut en prendre par jour?
Oui, alors là, il y a une posologie qui est indiquée sur le pot. Mais en fait, ça dépend très fort de la sensibilité de la femme aux hormones.
Ok.
Donc, il y a des femmes, une gélule, hop, ça suffit, il ne faut pas, surtout pas plus. Et puis, il y en a d'autres, il faut prendre deux matins, deux le soir pour vraiment qu'elles sentent un effet.
Ah ouais, ok. Donc finalement, vont devoir faire appel à leurs sensations.
Comme toujours.
Sensations, écoute du corps et voir, tester, prendre une. Bon, il n'y a rien, deux, ok. Et s'écouter.
Exactement. Voilà.
On revient à chaque
Oui.
fois à ça.
Mais oui. Et tu vois, pour l'allaitement, ce qui est intéressant aussi, c'est les moments de la journée où on va les prendre, ces gélules. Alors, bon, je ne sais pas si les personnes qui regarderont cette vidéo ont déjà allaité, mais le soir, on a souvent moins de lait. Donc, prendre une gélule vers les 4-5 heures de l'après-midi, ben, ça va préparer la soirée pour redonner un petit coup de boost au niveau de l'allaitement. Donc, voilà, il y a plein de petites choses en fait qu'on peut faire pour l'utilisation.
Ok. Et elles se conservent longtemps? Je veux dire, si on ne les ingère pas tout de suite, est-ce qu'on peut faire un petit stop et puis se dire, ah ben, dans 3 mois, je recommence. Est-ce qu'elles seront encore bonnes, entre guillemets?
Alors, si, donc il faut qu'elle soit conservée au frigo. Donc, le
Ah
pot,
oui.
on le met au frigo. 6 mois au frigo sans problème. 2 ans grand maximum au congélateur après.
Ok,
Donc, on les passe au
ok.
congélateur. Après, ça reste un élément comme quand on va congeler un morceau de viande. Enfin, c'est vraiment la même chose. Au bout de 2 ans, on ne va pas avoir l'idée d'aller décongeler son morceau de viande et le manger parce que, ben, en fait, les nutriments
Ils seront
partent.
perdus.
Oui, donc c'est sûr que moi je dirais qu'au-delà d'un an déjà, je pense qu'il faut prendre vraiment dans cette première année de vie de l'enfant. Et si on n'utilise pas le reste, on peut transformer dans d'autres choses. Donc on peut utiliser le reste pour faire des crèmes, pour refaire une teinture mère, pour après faire de l'homéopathie, l'utiliser plus longtemps. Donc voilà, c'est pas perdu, on peut vraiment le transformer en d'autres choses.
C'est magique, finalement.
Ouais.
C'est
Ouais,
fou. C'est passionnant, en fait. Tout ce qui, tout, tout le boulot déjà qui fait dans le ventre, et puis après, tout ce qu'on peut en faire, c'est vraiment génial, en fait.
c'est un concentré, ce placenta. Il est mal aimé hein, chez nous, mais c'est un organe magnifique. C'est incroyable ce que cet organe fait. C'est grâce à lui si le bébé peut exister dans notre ventre. Il est constitué des cellules du bébé, hein, donc.
C'est son
C'est pour ça qu'on
placenta.
l'appelle le jumeau, ouais, du bébé. Et en fait, avant, les hôpitaux, ils vendaient ces placentas aux firmes cosmétiques. On créait des crèmes parce qu'on remarque que le placenta a une propriété fantastique de venir rebooster la production de collagène de notre peau. Donc, un anti-ride super, en fait. Maintenant, c'est interdit parce qu'on ne peut pas faire de commerce d'organes. Donc, c'est interdit par la loi. Et donc, il y a plein de crèmes maintenant qui apparaissent sur le marché à base de placenta de mouton ou de chèvre. Et donc, c'est dommage de passer à côté de son propre placenta. Alors, enfin voilà, et quand on voit le prix de ces crèmes, c'est hallucinant.
Ah, ça, oui, ça,
Donc, moi, je dis, à l'heure actuelle, on fait toutes ces crèmes, ces produits ménagers soi-même, c'est vraiment pas compliqué de pouvoir faire ça. Enfin, voilà. Oui. Si les mamans ont envie et sont ouvertes, en tout cas,
après,
c'est
voilà,
pas
c'est aussi en fonction aussi d'où elles accouchent, de voir aussi que bah, le médecin, enfin en tout cas la maternité, pour voir bah, s'ils sont OK ou pas de, bah, de laisser le placenta, parce que c'est vrai qu'ils peuvent dire, bah non, c'est un déchet, enfin un déchet, et donc non, ça ne sort pas de l'hôpital et ça va à la poubelle, quoi. Donc ça,
Mais écoute, moi, dans mon expérience, depuis que je le fais en Belgique, donc j'ai dû encapsuler en Belgique presque aux alentours de 90 placenta et j'ai eu un refus.
Ah ouais, ok.
Un refus d'un hôpital à Bruxelles qui n'était pas du tout, je pense, dans cette réalité-là et qui était un peu surpris par la demande. C'est une demande aussi qui est faite au moment de l'accouchement, qui n'a pas été préparée avant. Et donc, comme on disait, d'où l'importance de préparer les soignants qui nous entourent à ce projet. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais eu de refus. Je pense que les esprits s'ouvrent de plus en plus. Et en général, les gynécologues demandent quand même bah, dans quelles conditions c'est fait. Voilà,
Forcément,
ils sont
bah oui.
inquiets pour le bien-être de leurs patientes, évidemment. C'est normal, à juste titre.
Puis bon, pour éviter aussi des problèmes après ou que sais-je, voilà, il faut. Mais en tout cas, c'est possible et c'est voilà, c'est une belle opportunité de pas, enfin de le faire en fait, d'être pas passé à côté. Et... En tout cas, voilà, pour mon expérience aussi personnelle, c'était voilà très chouette en tout cas de le faire. J'ai gardé une gélule en souvenir.
C'est chouette, super.
Et aussi, oui, par rapport, parce que tu n'as pas encapsulé tout enfin, le placenta du bébé, parce que tu as enlevé la partie du cordon. Et voilà, cette partie-là, bah, tu me l'as aussi bah, redonnée. Et voilà, on l'a pu l'enterrer dans le jardin. Et voilà, faire aussi une partie
Oui.
de, enfin, voilà, de rituel autour de ça. Et c'était, voilà, c'est chouette, quoi, même si c'est peut-être pas grand-chose, mais. C'est gai de savoir qu'il est quelque part tout près.
Mais c'est souvent symbolique et le symbolique est très important dans notre culture aussi. Et chacun le vit différemment, ça. Et il faut savoir que l'encapsulation est compatible avec beaucoup d'autres choses pour honorer son placenta et son bébé. Donc, vraiment, il y a plein de choses possibles, ouais.
Allez, super. Merci beaucoup. Bah, dernière question, où peut-on te contacter si bah, les mamans sont intéressées par tes services?
Alors, j'ai un site internet, c'est placenta-autrement.be. Et là, il y a toutes les informations pour pouvoir me contacter.
D'accord.
Voilà, il y a, je pense, mon mail. À travers le site, on peut me contacter très facilement.
Ok.
Je réponds dans le plus rapidement possible, dans la mesure du possible. Parfois, j'ai des problèmes avec ma boîte mail, je loupe les mails.
D'accord.
Donc, s'il n'y a
Persévérer.
pas de réponse, il ne faut pas hésiter à revenir
D'accord.
parce que j'ai, voilà, c'est pas ma, enfin, je fais de mon mieux, je
D'accord.
promets.
Ouais.
Mais parfois, il m'arrive d'en louper un et je trouve que c'est trop dommage de ne pas réaliser son projet juste à cause d'un mail qui n'est pas bien passé.
Ouais, exact. Ok.
Voilà.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésitez pas à télécharger votre cadeau sur mon blog pour ainsi être au courant des nouveaux articles ou podcasts à venir. À bientôt!